Bonjour tout le monde, bonjour, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 19 octobre 2016, 14h et oh là là, bien plus de 5 minutes, presque 6 minutes, Christophe Rollin au micro, Isa est présent, Gérald aussi et notre invité est là, Antoine Glattard. Rappelez-vous, nous l'avions entendu quelques petites minutes, c'était en avril dernier, dans l'émission, je ne sais plus laquelle c'était, la 80e, 90e, il avait présenté le concert qu'il allait donner à la tête de l'ONL à la mi-mai, un concert Peter Pan, et là, le voici en chair et en os pour un concert à venir. Alors, c'est pas tout de suite, le dimanche 6 novembre, mais ça approche, et puis peut-être évoquera-t-il aussi le programme de cette fin d'année civile à l'orchestre, toujours à l'ONL, toujours à l'auditorium, un spectacle nommé Rêve de cirque, les 29, 30, 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Voilà, donc il est avec nous pour parler pendant toute cette émission de ce jeune, tout jeune, très jeune chef d'orchestre qu'il est. Et puis voilà, nous allons commencer d'ailleurs avec une des œuvres qui sera donnée, puisque ça aura lieu ce dimanche 6 novembre. Je crois que c'est à 16h l'horaire, c'est l'Académie des jeunes de l'ONL, je crois que c'est le nom que ça porte. Antoine donnera toutes les précisions qu'il faut. Écoutons la Moldau de Bedřich Smetana, extrait de Mavlast, ma patrie. Alors Gérald a exhumé cet enregistrement. C'est la NBC Symphony Orchestra dirigée par Arturo Toscanini. C'est une version qui date, elle est de tête, je dirais, 1950. C'était écrit en mars 1950. C'est assez. Le son va peut-être accrocher un peu. Néanmoins, auditeurs, restez bien à l'écoute. Vous êtes sur Radio Canu. Vous nous écoutez d'ailleurs sur le 102.2 de la bande FM ou bien sur radiocanu.org. Et puis là, tout de suite, c'est la Moldau de Smetana. Ça va être très bien. Vous allez voir ça. C'est jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, et c'est très bien.
Thank you. Bonjour, vous êtes bien sur Spectaculaire, 14h11, en direct avec nous, un chef d'orchestre, une fois n'est pas coutume.
Bonjour.
Et Lisa, faut le nommer. Il faut le nommer, c'est donc Antoine Glattard, d'ailleurs c'est le site si vous souhaitez le rechercher, antoineglattard.com, comme ça vous pourrez voir des photos, des vidéos, ses tournées, différentes choses. Oui, tu as raison.
Donc
Gérard.
Un jeune chef d'orchestre, mais bonjour, il paraît qu'il y en a encore des plus jeunes, né en 1984, qui a une expérience professionnelle assez consistante. On a le CV sous le nez là, donc comme d'habitude le principe de l'émission, un portrait, le passé, le présent, le futur. On va commencer par le passé en toute bonne logique. Donc, comment êtes-vous devenu chef d'orchestre? Peut-être les parents, un milieu familial?
Oui, disons que je suis né dans une famille de musiciens, et donc c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier. Mon père était altiste à l'Orchestre de Radio France, à l'Orchestre National, et c'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de concerts petits, et très vite j'ai voulu devenir chef d'orchestre. Je pense que ça remonte lorsque j'avais 6-7 ans. Voilà, et puis j'ai eu un parcours un peu enrichi, et puis je me suis vraiment penché après mes 20 ans.
Et est-ce que vous avez vous-même joué d'un instrument de musique?
Absolument, oui, ouais. Oui. Je pense qu'on ne peut pas être chef d'orchestre sans jouer d'un instrument, c'est quand même la base. Donc je suis pianiste et clarinettiste de formation. Donc je suis allé au bout de mon parcours en région parisienne, et puis ensuite je me suis développé en étudiant l'écriture, l'orchestration, diverses pratique un peu plus théorique, et puis on apprend la direction d'orchestre. Car il faut savoir que la direction d'orchestre, c'est un peu comme un instrument de musique qu'il faut apprendre avec une technique. Donc voilà, c'est. Mais avant ça, il faut bien sûr avoir une bonne connaissance de la musique, c'est essentiel.
Le CRR de Lille, c'est ça le...
Oui, j'y suis passé. Lille, j'y suis passé brièvement prendre des cours de direction d'orchestre avec Jean-Sébastien Béraud. Mais c'est un petit point de mon parcours. Voilà, j'ai pris un an de cours là-bas avec ce monsieur. Mais piano clarinette, j'ai fait ça à Boulogne-Billancourt, au CRR de Boulogne-Billancourt, en région parisienne.
Vous avez pratiqué les deux instruments, comment dire,
de front, de
la même manière. Bah, très bien, c'est quand même, c'est pas très pareil, hein, le clarinette et...
Mais non, justement, c'est intéressant voilà, de aborder différentes choses, et surtout avec la clarinette, j'ai joué dans l'orchestre, et qui a été aussi un choc, car j'étais clarinette solo de l'orchestre pendant les trois cycles d'instruments, et c'est vrai que j'ai adoré jouer dans l'orchestre. Ça m'a fait connaître l'orchestre de l'intérieur. J'allais au concert écouter mon père, j'avais l'orchestre de l'extérieur, et j'ai vécu l'orchestre de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est parce que en classe de piano, on fait de la musique de chambre, mais on joue beaucoup tout seul, quoi. C'est quand même un instrument plus solitaire. Et donc la clarinette m'a permis de jouer dans l'orchestre.
Je vois aussi dans vos études chant, je vois contrebasse aussi.
Oui, j'ai fait de la contrebasse un petit peu, c'est un instrument que j'adore. Bon, j'ai pas pu approfondir autant que je le souhaitais, parce qu'il faut du temps pour ça, mais j'aurais aimé aller plus loin en contrebasse, ouais. C'est un bel instrument.
Antoine Glattard, un homme orchestre en quelque sorte.
Oui.
Et si qu'est-ce qui fait qu'on se décide à vouloir devenir chef d'orchestre au lieu juste d'être musicien?
Ouais, c'est une bonne question, et je suis pas sûr d'avoir la réponse.
L'ambition?
L'ambition, oui, mais on peut être ambitieux à...
Le dirigisme?
À n'importe quel niveau, je veux dire. C'est une place qui m'a attiré, et c'est vrai que de définir pourquoi, c'est pas évident. Mmh. Disons que le jour où j'ai dirigé un orchestre pour la première fois, c'était un sentiment extraordinaire, pardon, et après je n'ai plus voulu faire autre chose, quoi. Donc, mais le fondement de ça, c'est assez curieux. Voilà, diriger la musique. Pourquoi? C'est un désir, et je pense qui remonte à loin. Et voilà, je pense que chacun doit trouver sa place, et je pense que ma place, c'est là.
Il y en a qui arrivent très jeunes, et puis il y en a qui mettent toute leur vie, comme Léo Ferré, pour y arriver à la fin de sa vie.
Non, mais c'est long. Oui,
il a réalisé son fantasme.
C'est un parcours d'une vie. Je crois que devenir chef, ça se construit au fil des années, quoi. On se construit, on se développe, et donc en effet, c'est sur du très long terme, quoi. Absolument.
Et est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement pour vous d'être chef?
Non, parce que je suis en recherche. Je suis en recherche. En fait, je suis en début de carrière. Enfin, je m'estime en début de carrière. chaque saison est plus riche que la précédente, donc je suis très heureux de ça, mais je me sens pas accompli. Je me sens en recherche, je me sens en plein développement. J'ai comme que 32 ans et je pense que je pourrais diriger dans 5-10 ans de manière très différente qu'aujourd'hui. Donc on est en recherche perpétuelle.
Sans chercher peut-être à creuser la chose, et encore, hein, Gérald, moi il me semble ces dernières émissions, on a parfois une sorte de talent psychanalytique. On fait prononcer des propos à nos invités.
Allez-y, je suis là pour ça.
Non, on va pas essayer ça vraiment aujourd'hui, Antoine, mais peut-être sauvage. Quand même une question. Est-ce qu'il y a une figure qui aurait pu être déterminante? Votre père, vous l'avez dit, altiste,
oui.
Donc c'est au sein de l'orchestre. Votre mère, claveciniste, peut-être justement un peu.
Oui.
Vous parliez du piano comme un instrument qu'on pratique plutôt seul.
Oui.
Est-ce qu'il y a une figure, je ne sais pas, un grand-père éventuellement, ou alors peut-être une figure médiatique?
Une idole.
Un chef, von Karajan, Georg Scholti, Leonard Bernstein,
Kurt Wendler. J'ai pas eu de chef comme ça qui m'ont marqué plus que ça. Non, mon père m'a beaucoup parlé de Mazel parce qu'il l'a eu comme chef titulaire pendant des années. Donc il m'en parlait beaucoup. Moi je l'ai peu vu en concert, mais donc j'en ai beaucoup entendu parler à la maison. Moi quand j'allais au concert petit, c'était l'époque de Charles Dutoit. Et puis plus récemment, je suis beaucoup allé voir les répétitions de Daniele Gatti, de
Kurt Mazur.
Voilà, Kurt Mazur pendant des années. Mais disons que c'est plus la fonction et l'amour de la musique plus que ressembler à un tel ou un tel.
C'est pas tant ressembler, mais quelque
oui,
chose
oui,
qui
mais
vous aurait...
Non, mais... non j'ai plus eu des grands compositeurs qui m'ont façonné, qui m'ont impressionné, plus que de grands chefs d'orchestre.
Des figures peut-être, Pierre Boulez qui a mené de front composition et puis direction, ou alors auparavant c'est Gustav Mahler plutôt au XXe siècle.
Oui, bien sûr. Oui.
Enfin, la plupart des grands compositeurs étaient aussi chefs d'orchestre.
Pas la plupart, mais un bon nombre. Mais non, il y a
Debussy, Ravel.
Non,
Ravel a jamais dirigé.
Non, il était pianiste, Ravel. Mm. Il était pianiste, mais il ne dirigeait pas. Bon, en effet, Mahler est l'exemple le plus frappant, parce que Mahler a été connu en tant que chef d'orchestre avant d'être connu en tant que compositeur. C'était un grand chef d'orchestre. Mm-hmm. Il était chef de l'Opéra de Vienne. Mm-hmm. Donc il avait vraiment une carrière de chef d'orchestre à part entière. Donc je pense que l'exemple le plus frappant, ce serait peut-être Mahler. Berlioz dirigeait. Enfin, beaucoup de grands compositeurs ont dirigé. Mais bon, moi, je crois que ce qui nourrit, c'est l'amour de la musique, c'est envie de la servir. Je pense que c'est ça avant toute chose. Ouais.
La composition, la peut-être expédition, la question. Non, mais la composition. Est-ce que vous aimeriez composer peut-être?
J'ai composé en fait. À la base, moi, je suis compositeur. Avant de faire la direction d'orchestre, j'ai fait des classes de composition. Quand j'avais 18 ans, je voulais devenir compositeur.
Au Conservatoire Royal de Bruxelles avec monsieur Capelletti.
Oui, j'ai fait la classe de composition à Bruxelles, absolument. Et avant ça, j'écrivais déjà depuis quelques années. Et c'est vrai que j'avais un peu mis la direction de côté. Je voulais écrire. J'ai beaucoup écrit. Et puis, mon rêve d'enfant est revenu à la charge. Et donc, j'ai un peu mis de côté l'écriture. Mais j'aimerais ne pas abandonner ce projet parce que c'est intéressant de se confronter à l'écriture. Maintenant, quand on étudie la direction d'orchestre, on est au contact de tels chefs-d'œuvre, de tels génies. Ouais. Que c'est parfois difficile de reprendre
ça, on gagne en humilité, du coup, on sait à quoi bon rajouter
vrai.
Une.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça, c'est valable pour tous les arts. Hein.
C'est vrai que c'est.
Ça
c'est...
peut vous rassurer.
Parce que j'ai agrandi mon répertoire, je me suis intéressé à beaucoup de choses, et c'est vrai que, voilà, là, j'ai plus envie d'étudier ce qui a été fait, d'enrichir mon répertoire, parce que c'est un répertoire immense, et donc on ne cesse de découvrir des choses. Donc c'est vrai que j'ai un peu mis l'écriture de côté, mais pourquoi pas un jour.
On découvre des choses du 19e, d'ailleurs, on aura un prochain invité qui nous parlera des manuscrits exhumés du 19e, un spécialiste.
On découvre plein de choses.
Oui, toujours, oui.
Et puis c'est un répertoire immense.
Et est-ce que vous avez mis l'écriture de côté parce que vous n'avez peut-être pas trouvé pour qui écrire? Enfin, la bonne personne là qui peut-être.
C'est aussi une question juste. Alors, ce n'est pas ce qui a motivé, mais c'est vrai que écrire pour écrire, ça a un sens relatif parce que il faut être joué. C'est vrai que le plaisir du compositeur, c'est d'écrire pour quelque chose. Il faut des commandes, il faut être joué, il faut trouver les musiciens qui veulent jouer. Donc c'est vrai que écrire dans le vide, ça va un temps, mais c'est pas forcément toujours très gratifiant, quoi.
Ouais, il faut forcément trouver la bonne personne qui va pouvoir interpréter ce qu'on fait, quoi.
Mais j'ai été joué, c'est vrai que moi j'ai eu un ami percussionniste qui m'a commandé beaucoup de pièces pour ses élèves, donc parce que il y a des classes d'instruments qui manquent de répertoire moderne intéressant pour les élèves, et donc j'ai écrit un recueil pédagogique pour classe de percussion par exemple. D'accord. Parce que je trouve ça intéressant d'écrire pour les enfants aussi de la musique moderne, parce que voilà, pour des bons, il faut trouver un langage moderne mais accessible dans des limites techniques raisonnables, et donc j'ai fait ce projet là pendant
la pédagogie
un temps.
Toujours.
Ben oui, c'est
essentiel. Mais le plaisir suprême ne serait quand même pas de se diriger soi-même, diriger sa propre œuvre.
Je crois pas.
Non.
Non, je pense que si il vaut mieux laisser à quelqu'un d'autre le soin d'interpréter son œuvre ou pas, mais je veux dire, je crois que l'immense plaisir actuel pour moi, en tout cas, c'est d'interpréter de grands compositeurs. Parce que c'est un plaisir inouï. On se sent très chanceux, quoi.
Alors votre répertoire, puisqu'on parle d'interprétation, avant de rentrer dans les détails, les arcanes du métier de chef d'orchestre, parce que j'ai des questions sur la gestuelle et vraiment le métier, le cœur du métier, c'est quoi d'être chef d'orchestre.
Peut-être pas le seul, ouais.
Voilà, ça nous intrigue quand même pas mal. Votre répertoire, il évolue, il y a beaucoup de russes, il y a beaucoup de grands classiques comme Beethoven, Brahms, les romantiques, mais il y a un petit côté tchèque et russe quand même qui revient.
Oui, il y a beaucoup de choses. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que jeune chef d'orchestre, on ne choisit pas forcément ses œuvres. On nous propose des concerts avec un répertoire. Et donc on accepte. Donc je ne suis pas vraiment au stade où je peux imposer mes œuvres.
Ah ouais, c'est pas vous qui choisissez les jouer, enfin diriger.
Ça peut, mais ce n'est pas souvent le cas. C'est le cas à Rouen actuellement, parce que je suis chef résident à l'Opéra de Rouen, et là j'ai pu faire mes programmes. Donc c'était un grand plaisir. Mais par exemple, là, on nous invite pour un projet particulier, et donc voilà, on est assez malléable. Mais donc si je devais vous dire un répertoire qui m'est très cher, je pourrais vous citer la musique de Mendelssohn, par exemple. Je suis très très attaché au pré-romantisme, à savoir Schubert, Schumann, Mendelssohn. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup et que j'ai envie de défendre.
Ah, les hébrides, Félix Mendelssohn-Bartholdy, ouais,
magnifique.
Ouais, moi je coincerai un peu. Par exemple, le programme à venir là, de ce dimanche 6 novembre, est-ce vous qui l'avez établi
Oui, ça c'est moi qui l'ai fait, absolument. Bon, en accord avec le directeur de l'Orchestre de Lyon, car il faut que ça ne mange pas sur la programmation de l'ONL, mais c'est moi qui l'ai construit, absolument.
Oui. Et est-ce que vous arrivez parfois de refuser des propositions qu'on va vous faire par rapport à des...
Non, pour l'instant, si je refuse, c'est que je ne suis pas libre. Mais je ne refuse pas parce qu'une pièce ne me plaît pas. Non, pour l'instant, je prends tout ce qui vient.
D'accord.
Est-ce qu'on diffuse un peu un autre grand pianiste qui fut compositeur à son époque?
Ah oui, puisqu'il est au programme, on parlera du programme.
On le nomme
après.
De qui s'agit-il,
Franz.
Gérald? Franz, exactement. Franz Liszt, puisque dans ce programme, dans ce concert qui sera donné, je n'ai pas retrouvé l'horaire. Vous l'avez l'horaire, vous, le dimanche 6 novembre?
Oui, c'est à 16h.
C'est à 16h.
Je peux vous le dire.
Donc, différentes œuvres. Il y aura la Moldau, qu'on vient d'écouter, un extrait de cette grande œuvre Mavlast. Et puis, il y aura aussi donc, ces préludes de Liszt.
Préludes de Liszt.
J'essaie de retrouver Guillaume Connaisson. D'ailleurs, oui, il faudra qu'on en parle tout à l'heure.
Une pièce de Guillaume Connaisson qui est très intéressante, qui dure 8 minutes, mais qui est un grand défi pour l'orchestre, parce que bon, donc, c'est un orchestre de jeunes, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un grand défi pour eux. C'est une pièce très difficile, mais qui est une pièce formidable.
Maslenitsa.
Absolument. En fait, c'est un compositeur qui est en résidence cette saison à l'ONL. Donc, on voulait l'inclure dans le programme des jeunes. Mais c'est un grand, grand défi. C'est une très belle pièce, mais très virtuose.
Quatre compositeurs, pièce courte, hein. Et 11 minutes. 8 minutes.
Et on joue une symphonie de Dvorak qui dure 35 minutes.
Oui, ouais. Voilà, c'est le gros morceau du
La 8e de Dvorak. Voilà.
Donc, un programme gratuit.
Gratuit, accessible
si
à tous.
Vous y rendre. Voilà,
vous êtes bienvenus. Absolument.
Isa, tu as une précision à demander
ou non.
Non. Alors, écoutons Franz Liszt. Dans une version, Gérald, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Ce sont les préludes qu'on va entendre. C'est interprété dans une compilation, les Golden Classics. Qu'est-ce qu'il dirige? Je vais essayer de retrouver ça. C'est le London Festival d'Orchestre.
Belle de référence.
Dirigé par Alfred Scholz.
Comme le précédent.
Très bien. Ouais, ça dure 16 minutes. On va peut-être pas.
On va écouter que le début. Oui. Voilà. Mais le son sera meilleur. Il n'est pas en AD, il n'est pas en mono. Donc,
l'introduction est très belle.
On soigne les auditeurs quand même sur Radio Canu. Spectaculaire. Yeah. On écoutait Franz Liszt. Liszt, pardon. Grand compositeur du 19e, c'est ça ?
Pianiste également, oui.
Pianiste, et bon, cet air est très connu. Moi, j'ai pensé à tous les documentaires qui passent à la télé quand on s'intéresse au Troisième Reich. Hein. Et je pense qu'ils l'utilisaient d'ailleurs pour leur grande messe à Nuremberg ou ailleurs. Le côté très ronflant. Là.
Hein? C'est pas si ronflant que ça, en fait.
Non, mais bon, c'est un côté quand même grandiloquent, on va dire.
C'est grandiose. Oui.
Grandiose, allez.
Oui. Mais c'est une œuvre qui est très riche parce que, et qui montre une grande palette de couleurs musicales. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas que ça dans l'œuvre. C'est un petit extrait, mais c'est une œuvre très, très subtile. Oui, c'est à nous de la rendre subtile, justement.
Bien sûr.
Alors, nous écoutions cet extrait à l'instant parce qu'Antoine Glattard, qui est avec nous, chef d'orchestre, bientôt, ce ne sera plus ce terme-là, assistant. D'ailleurs, pour les concerts que nous sommes en train d'évoquer, vous n'êtes pas du tout assistant, c'est vous le chef principal. Nous parlons du concert du dimanche 6 novembre à 16h, concert gratuit, avec bien l'Orchestre des Jeunes sous votre direction. Pour ce programme, les préludes de Liszt, la Moldau de Smetana, le Maslenitsa de Guillaume Connaisson et puis la symphonie numéro 8 d'Antonin Dvorak. On écoutera peut-être un extrait tout à l'heure. Et puis aussi, il faudra quand même qu'on l'évoque d'ici la fin d'émission, Gérald. Il y a ce concert à venir à la fin du mois de décembre et puis tout début janvier, les jeudis 29 à 20h, vendredi 30 à 20h également, samedi 31 à 15h et le samedi 31 toujours à 20h. Le premier aussi. Je ne vois
non,
pas apparaître
non,
ça. Non, pas,
non,
pas
non.
Le premier. Donc c'est seulement.
Ça va être le 31.
Voilà. Donc seulement ces quatre dates. Un programme. Là, vous serez à la tête non pas d'un orchestre les académiciens ou bien les jeunes. Là, ce sera vraiment l'ONL, le fameux ONL,
oui.
Orchestre National de Lyon, pour un programme des extraits de Carmen de Bizet, la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, l'Apprenti Sorcier de Paul Ducasse, de Camille Saint-Saëns, la Danse Macabre, et puis ensuite il y aura aussi le Galop Infernal, notamment extrait de d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, et puis d'autres surprises.
D'autres choses, il y aura du Berlioz.
Et sur scène.
Entièrement de musique française.
Et sur scène, il y aura également une surprise. Il y aura des surprises, puisque. Enfin, non, c'est pas une surprise.
Non, c'est pas une surprise. En fait, la scène de l'auditorium sera transformée en chapiteau de cirque. Et donc, Nicolas Ramon, qui va organiser voilà, des numéros de cirque sur la musique, entre les morceaux de musique. Cela risque d'être un très beau spectacle pour les fins d'année. Ouais.
Nicolas Ramon, avec son ensemble, il assure la conception, la mise en scène avec sa compagnie Les Transformateurs.
Absolument.
Antoine, à présent, je crois,
alors,
Gérald...
Orchestre de jeunes. Voilà, revenons au concert du 6 novembre. Il s'agit donc de 80 jeunes musiciens de 20 ans.
De entre 15 et 20 ans.
Voilà.
Qui sont en troisième cycle d'instruments. Et ce sont des jeunes qui sont issus de toute la région Rhône-Alpes, Auvergne.
Des conservatoires, des écoles de musique de...
Oui, voilà, qui sont au troisième cycle. Donc, le troisième cycle, c'est en fin d'études instrumentales, qui sont dans des écoles de musique la région entière, donc qui ne se connaissent pas forcément.
Rhône-Alpes,
Auvergne, d'accord. Car c'est une grande région maintenant.
C'est vrai, oui.
Voilà, il faut y penser. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on va accueillir des musiciens de l'Auvergne, il me semble. Et donc, on réunit ces jeunes pour un stage qui commence ce samedi-là. On travaille pendant 12 jours de manière très intensive. Parce qu'on part vraiment de loin, il faut les faire se rencontrer, apprendre le répertoire, travailler ses pièces, et à l'issue de ce stage, on propose donc une tournée de concerts dans la région. Donc on jouera sur le lieu du stage, à Autran.
Dans un immense gîte, dans le Vercors, c'est ça ?
Dans le Vercors, oui, et un gîte mais qui possède quand même une salle de concert, donc c'est très pratique pour nous.
Oui.
Et donc on fera un concert là-bas le 1er novembre, on fera un concert à Évian le 4 novembre au soir, 20h30, et donc le concert à Lyon le 6 novembre. Voilà.
C'est la première fois que vous avez l'idée de réunir autant de jeunes sur un...
Alors, ce n'est pas mon idée, c'est organisé par l'Orchestre de Lyon. Ouais. Ils font ça depuis plus de 15 ans.
Ah. Ah,
c'est un très vieux partenariat et donc c'est vraiment encadré par l'ONL quoi. Donc à savoir en fait pour les trois premiers jours de stage, il y a des musiciens de l'ONL qui viennent pour aider dans chaque pupitre, donc un par instrument. Donc je suis épaulé par des musiciens de l'ONL pendant 3 jours et après ils me laissent l'orchestre et je les fais travailler pendant le reste du stage.
Voilà. Vous pouvez d'autant plus en parler que vous avez déjà vécu cette expérience l'année dernière à cette époque. Vous
absolument,
avez aussi
c'est ma deuxième
préparé
saison.
Ouais, l'Orchestre absolument. Des Jeunes. Et le concert dont je parlais tout à l'heure en début d'émission, le concert de ce mois d'avril, c'était à la mi-mai plutôt. Quoique non, là je confonds les choses en plus. À la mi-mai, c'était l'Orchestre National de Lyon à nouveau que vous dirigez pour Peter Pan.
Oui,
et en revanche, tout début mai ou fin avril, c'était à nouveau l'Académie, c'est ça?
Ah là, c'était les juniors.
Les juniors.
C'était
plus jeunes.
Oui, voilà, encore plus jeunes. Entre 13 et 16, quoi, grosso modo, quoi. Des élèves de second cycle.
Et donc, revenons à ce concert, c'est ce que tu disais, Gérald. Donc, plus précisément, ce dimanche 6 novembre, ce sera la conclusion de ce stage qui commence.
Oui, vous c'est avez la fin de la tournée. Cette semaine. C'est le dernier concert. Absolument. Donc, on va essayer de finir en beauté.
Et alors, la préparation, ça marche comment? Tu parlais.
Alors, non, Gérald, d'abord, vous êtes choisi pour vos qualités de pédagogue, j'imagine. Pour votre âge, votre jeune âge.
C'est un concours, Gérald.
Oui.
C'est un concours.
Oui, oui. D'accord. Moi, j'ai passé un concours à Lyon. D'accord. Pour être chef résident. Mm-hmm. Et donc, j'ai été auditionné avec l'orchestre qui a voté pour le chef résident. Voilà, donc c'est un concours.
Alors c'est la différence, c'est quoi quand on travaille avec des jeunes comme ça, par rapport à d'autres musiciens?
Bah c'est énorme parce que il faut, en fait il faut leur apprendre le métier d'orchestre. Donc en fait il faut leur communiquer les réflexes à adopter, l'écoute, parce que voilà.
La discipline.
Oui, aussi, mais voilà, parce que ils n'ont pas l'habitude de jouer d'orchestre. Je pense quand même que certains ne l'ont pas beaucoup fait,
voire pas
du tout. Et donc il faut instaurer l'écoute, le travail, apprendre à être ensemble, apprendre à s'écouter, et en fait voilà, leur donner des clés pour jouer ensemble. Donc c'est un travail assez laborieux, mais passionnant, vraiment enrichissant. Et également, ils ont une envie de jouer qui est débordante. Donc, une énergie très, très forte. Et donc, pour un jeune chef, c'est très encourageant et très stimulant parce que voilà, on est vraiment porté par leur envie, quoi. Mais il faut les faire travailler. Ils ne donnent rien pas seuls. Il faut leur apporter le travail. Voilà. Donc, c'est un gros boulot, mais qui est vraiment chouette.
Est-ce que c'est difficile de tous les faire jouer ensemble? Est-ce que vous remarquez qu'il y en a certains qui sont peut-être plus individualistes
Oui, après, en fait, il faut travailler dans chaque pupitre. Donc, en fait, on ne travaille pas ensemble tout le temps. Mmh. On les sépare. Donc, on va travailler les cuivres ensemble, les bourras ensemble, les cordes ensemble. Et après, on réunit les différentes familles d'instruments. Donc voilà.
On assemble, hein, comme une sorte de puzzle.
On va pas à pas. Oui, absolument.
Petit à petit.
Absolument.
On mettrait en forme jusqu'à l'image finale qui. Le soir du concert.
Voilà, j'espère cohérente. Voilà,
alors là, on est dans le cœur du métier, donc diriger, c'est préparer, faire répéter les instrumentistes, donner une confiance, assurer une cohésion de groupe pour que tout le monde joue en harmonie.
Apporter une interprétation.
Apporter alors un style. Après, les gestes même du chef, si on pouvait rentrer un peu dans les détails justement du métier, exactement, du style, l'interprétation, à quoi correspondent ces gestes, il n'y en a aucun qui a les mêmes, et pourtant, bon, ça roule, puisque les musiciens jouent ensemble la plupart du temps.
Bon, il y a une base commune. En fait, il y a une base commune, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans un orchestre étranger, diriger, et on va se faire comprendre. Moi, j'étais invité en Pologne, je suis arrivé, voilà.
C'est les mains, les gestes, les doigts, c'est quoi qui est universel, on va dire.
Je vais un peu simplifier, mais grosso modo.
Oh oui, surtout, oui.
Oui. Grosso modo, la main droite va battre le tempo. Donc, voilà. À deux temps, à trois temps, à quatre temps, la mesure et le tempo. Donc, avec cette main droite, les musiciens savent à quelle vitesse il faut jouer.
Très bien.
Avec la main gauche, on va montrer une émotion, une direction, un phrasé musical. Donc, avec ces deux mains, on arrive à donner et une vitesse et une intention musicale. D'accord. Voilà, ça c'est un peu la base.
C'est pas mal.
Et donc, il y a une technique un peu universelle, mais le chef d'orchestre va développer sa propre technique, j'ai envie de dire, son propre langage corporel, car c'est un instrument corporel. Et donc, au fil des années, on se construit en tant que chef, en développant son style de geste, mais qui sera quand même compréhensible par la plupart des musiciens.
Il y a les yeux, il y a le froncer les sourcils quand ça frise la dissonance, il y a peut-être
le
port de
tête. En fait, c'est même plus subtil que ça. Les musiciens vont réagir très subtilement à ce qu'on dégage. Voilà. Au-delà des gestes et au-delà de ce qu'on montre. Je crois que c'est vraiment un film, ils ont une grande sensibilité et un musicien d'orchestre va réagir à ce qu'on est profondément. Donc, on ne peut pas tricher quand on est chef, on se montre.
C'est une sorte de chorégraphie de tout son corps finalement, non?
Oui, en fait, voilà, il faut inspirer un phrasé avec son corps, avec son âme, et les musiciens sentent ça de manière assez évidente. Oui.
On parlait hors antenne. De cette jeune chef d'orchestre lituanienne dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle
Je crois que vous parliez de Giedrės Lekytė.
Voilà, c'est ça, qui est passé sur Metropolis la semaine dernière sur Arte, et qui a quand même la particularité de diriger de manière justement précisément chorégraphique avec tout son corps, et puis elle a l'air de s'amuser, elle a tout sourire, elle sort du micro, c'est tout juste si elle se retrouve pas par terre à se relever.
C'est très,
très
personnel.
Chorégraphique.
Ouais, mais ça
j'avais vu ça. Bon.
Ça peut. Après, voilà, je crois que ça reste très personnel.
Et la baguette avec ou sans, parce que je pense à, je le nommais tout à l'heure, Pierre Boulez, qui dirigeait sans baguette. Vous-même, vous pratiquez, vous avez une baguette?
Oui, bien sûr.
Oui, oui. C'est plutôt la main droite, alors, c'est pour le tempo.
Ah, c'est la main droite qui en est droitier, absolument. Après, il y a des chefs gauchers qui battent de la main gauche,
savoir pour les musiciens.
Mais c'est assez rare. Oh, les musiciens, ils sont souples. Je crois que ça pose pas de problème, mais voilà, c'est à droite d'un point de vue traditionnel. Et on peut diriger sans baguette. Je crois qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et puis, en fonction du répertoire aussi, parce que, par exemple, si on joue du Mozart et qu'on a un petit orchestre, moi, j'aurais plus tendance à le faire sans baguette pour avoir un contact plus intime avec les musiciens. Mmh. Et si on joue, ça fait une malheur où il y a 110 musiciens sur scène.
Sauf que pour être vu, c'est aussi un instrument visible.
Absolument.
Qui aide à la visibilité.
Ah, c'est le sens de la baguette, c'est de prolonger le bras et d'augmenter la visibilité. Ah ben, c'est son but premier, absolument.
Et cette expression alors, c'est un peu peut-être ce
que
tu
baguette.
Pensais. Ben voilà, ce que tu pensais, Gérald. L'autorité ou le charisme, oui, c'est nécessaire. En fait, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas être chef d'orchestre. De la même manière, je suppose que tout le monde ne peut pas être footballeur ou n'importe.
J'en sais rien.
Il faut dégager quelque chose, peut-être. Enfin, moi, je pense que je pourrais.
Oui,
pas,
mais Gérald, si. Oui. Il faut dégager quelque chose, mais
bien connaître la musique déjà.
Mais l'autorité, moi, j'ai envie de dire qu'elle est musicale. Elle est bien placée. Enfin, elle doit être musicale et bien placée. Alors, on a un peu l'image des chefs tyrans des années 60, années 80. Mais ça, c'est vraiment un temps qui n'existe plus aujourd'hui. On ne peut plus se comporter comme ça aujourd'hui. Mm-hmm. Vous avez passé un disque de Toscanini qui se comportait de manière très spectaculaire.
Certains directeurs direction d'acteurs, certains cinéastes,
tyrannisaient
leurs acteurs.
Et ça se perd. Le monde musical change. Et pour un bien, je pense. Aujourd'hui, il faut être autoritaire, mais musicalement. Ouais. En fait, il faut savoir ce qu'on veut très précisément. Mmh. C'est ça l'autorité d'un chef d'orchestre. Mmh. C'est qu'il arrive avec une idée la plus précise possible de ce qu'il a envie de comme son, comme couleur, comme style, comme phrasé. Et c'est ça l'autorité. Voilà. C'est arriver avec une idée précise.
Bon, mais des fois, ça marche pas. Il peut y avoir des tensions humaines entre les gens.
Ça peut, mais...
On peut tomber sur un musicien rétif à certaines...
On fait avec. C'est le métier de chef. C'est d'imposer musicalement ce qu'on veut en prenant compte qui on a face devant nous.
Est-ce que ça passe quand même aussi par le langage, par des mots, je veux dire? Est-ce qu'en répétition, est-ce qu'on parle?
Bien
est-ce
sûr,
que vous parlez,
alors, oui un bon chef ne parle pas trop. C'est ce que vont vous dire tous les musiciens d'orchestre. c'est qu'un chef qui parle trop, ça ennuie les musiciens, ils posent leur instrument et en fait, ils attendent de jouer. Donc, un bon chef est tellement clair avec ses gestes qu'il se passe presque de mots. Ça, c'est pour moi la définition d'un très bon chef d'orchestre. Alors, c'est un peu sommaire, hein, je vous la fais courte, mais disons que voilà, si on a déjà suffisamment clair, suffisamment précis pour se passer de mots, c'est le but, en fait. Voilà, c'est vraiment ce vers quoi on vise. Et comme ça ne suffit pas, car ça peut ne pas suffire, on arrête la direction et on parle, bien sûr, en étant le plus efficace possible. Car un orchestre, on a 2-3 heures de répétition, le temps est compté, donc on va à l'essentiel, quoi. Quand on parle, il faut être très concis.
Mais c'est vrai que... Est-ce que ça s'apprend, tout ça? Vous avez...
Non, ça, c'est l'expérience qui s'apprend, ça.
Des classes de direction.
Et l'expérience, surtout.
Oui, oui.
On fait des erreurs en tant que jeune chef, et puis voilà, on apprend à être plus efficace, à savoir quand il faut s'arrêter, ne pas s'arrêter, quoi dire, quand dire.
Est-ce qu'il y a un répertoire, par exemple, des gestes? Est-ce que, je ne sais pas, une main levée ou une paume ouverte ou des doigts? Oui, enfin, du moins, non, le répertoire n'existe pas. Enfin, on se le fait soi-même.
Je crois qu'on développe soi-même son vocabulaire gestuel. Absolument, je crois que il y a une base mais qui est très sommaire. Après on développe son style ça doit être compris, donc ça doit pas être trop farfelu, mais je veux dire mais voilà, en fait là c'est un peu théorique, donc c'est un peu abstrait
un exemple, ça va commencer samedi, c'est samedi que vous avez
le stage? Oui, samedi, oui.
Et donc c'est à quelle heure? C'est le matin, c'est la première session?
On commence samedi soir et après on est parti pour 12 jours de travail, ouais.
Et donc la première session de travail, quand aura-t-elle lieu? Samedi ou dimanche?
On commence samedi soir déjà.
Samedi soir.
Et là je vais commencer en tutti, donc avec tout le monde, avec les 80 jeunes, et je vais faire une lecture de liste, par exemple. Voilà, je vais commencer par liste, et je vais lire la pièce parce que pour qu'ils l'entendent déjà.
Ils ont préparé chez eux, c'est ça?
Ils ont préparé leur partie individuelle,
ouais, chacun. Ouais.
Enfin, je l'espère. et donc je vais le lire une fois ensemble. Pour qu'ils aient une vision, voilà, globale de l'œuvre.
Ça veut dire quoi? Lire, ça veut dire jouer, voilà.
Oui, jouer, oui. Je dis lire, mais c'est jouer. Et je commence déjà à travailler, oui, bien sûr, sur le.
Caler déjà des choses.
Surtout la justesse, le rythme, les couleurs.
C'est trop lent, trop rapide, il faut caler tout de suite les trucs.
Les nuances, voilà, en fait, il faut être efficace. Mais disons qu'avec les jeunes, il y a un grand travail à faire, donc on va pas à pas, on va, voilà, on bout par bout. Mais j'aménage pas, hein, vraiment, je suis là pour travailler.
Ah, bah, bien entendu. Oui. Et la Moldau dont vous parliez tout à l'heure, vous nous indiquez qu'il y a tout un propos, tout un discours dans cette œuvre. Est-ce qu'ils le savent déjà ou est-ce que vous leur direz peut-être que c'est un cours d'eau, c'est ça,
peut-être. Les plus curieux d'entre eux sont peut-être renseignés. Mais je pense que pour la plupart, il faudra leur expliquer l'historique de la pièce. Ils ont...
C'est un fleuve, c'est ça ? C'est une.
Oui. Absolument, c'est un fleuve qui traverse l'ancienne Bohême, en fait, quoi. Et qui va rencontrer plusieurs événements au fil de son flot, comme ça. Donc, en fait,
vous parlez d'un mariage, c'est ça ? Ou une fête ?
Oui, il y a une fête avec une danse de polka, il y a un rythme de polka, il y a une chasse à cours, car on va traverser une forêt. Après, le fleuve va traverser la nuit, donc avec un peu plus mystique, comme ça, avec le royaume des fées. Et puis, ça va finir en arrivant à Prague, sur une musique très, très grandiose. Et donc, le fil de l'eau est symbolisé par les flûtes qui coule comme ça de l'une à l'autre. On a pu l'entendre tout à l'heure. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est l'eau qui berce comme ça. Donc c'est une musique très imagée,
cinématographique.
Donc, absolument.
Côté musique de film, c'est vrai.
Vous l'anticipez, les jeunes l'auront tout de suite, le son, justement, ils ne l'auront pas et il faudra créer le son que vous voudrez.
Enfin, absolument. Ah bah oui, le son reste à créer parce que ça vous êtes sûr que ces jeunes-là ne sauront pas faire un son tout de suite. Mais c'est normal. Ils viennent de la région, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude de jouer en orchestre. Donc ça,
c'est ça qui est dingue. Même s'ils jouent tous juste indépendamment, solitairement.
Ensemble, c'est autre chose.
Voilà, ça change tout. Absolument. En fait. Il faut tout refaire. Quoi.
Donc, il faudra construire le son, absolument. C'est la base de mon travail.
Le travail est considérable. Quand on verra l'orchestre, le concert, moi je pense y aller un dimanche 6 novembre. Tu iras, toi, Gérald ?
Peut-être.
Si on se croise là-bas à 16h, ce qu'on va voir, nous, on va peut-être se dire Antoine, il fait que faire quelques gestes, et puis bon, bah, c'est très bien ce qu'on entend, parce que, comme très souvent, ce qu'on va entendre à l'auditorium, c'est de bonne qualité. Ce qu'on va sûrement à ce moment-là ignorer, c'est qu'il y aura eu du boulot qui aurait été
et le risque d'ailleurs de tellement caler les choses. Travailler en amont jusqu'à la perfection, parce que vous visez, j'imagine, la perfection.
Oui.
Le risque n'est-il pas pour la représentation publique, pour la concrétisation de tout ce travail, quoi,
la performance,
de refaire une version figée, trop carrée, trop parfaite par rapport au travail avant qui manquerait peut-être d'âme, de vie. On n'a plus le droit à l'improvisation, donc on joue.
Il
peut encore se passer des choses.
La musique est un art vivant. Donc ça ne peut pas être figé.
Les deux concerts ne sont pas identiques.
Et puis l'énergie que les jeunes mettent au concert,
elle
est spéciale. Ouais. Donc ça sera toujours mieux qu'en répétition.
Ouais.
Parce que oui, non, mais c'est un track positif. C'est juste
pression,
de sentir 2000 personnes dans son dos.
C'est ça.
C'est pas rien.
Ouais.
Et donc en effet, c'est un art vivant. Il se passe tout. Voilà. Moi, je ne sais jamais à quoi ça va ressembler précisément. Si vous voulez, même si j'ai travaillé de manière précise au stage, lors du concert, c'est une alchimie qui reste inconnue. Donc, c'est en cela que c'est très électrisant, car voilà, on ne sait pas ce qui va sortir. Mais il faut jeter sa confiance avec les jeunes.
Tout le monde est responsable de l'œuvre, quoi, en fait.
Oui, absolument. Mais c'est un art vivant par excellence.
Mmh. Et est-ce que vous avez peur que ça puisse inhiber certains jeunes de faire la pression du public ?
Je pense pas. Je pense qu'ils sont portés par l'effet du groupe.
Ils ont une certaine habitude, peut-être, de jouer aussi en public.
Pas tous.
Certains.
Disons que le groupe, il y a un effet de groupe, quoi. Mmh. C'est quand même, ils sont pas seuls sur scène, quoi.
Mmh.
Là, on sera 81 avec moi, et l'effet groupe fait que ils ont envie de jouer, ils sont impressionnés. Je dis pas parce qu'il y aura
combien de cordes.
Il y aura leur famille.
Si on a un qui fait un canard, dans le meilleur des cas, ils s'entendraient peut-être pas s'il y a assez de cordes.
Non, mais
ça peut arriver.
Oui, ça peut. Et puis même si ça arrive, ce n'est pas grave. Le droit sacré à l'erreur, je le défends beaucoup avec les jeunes parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc moi,
avec tout le monde.
On a le droit de se tromper. C'est un art vivant, comme je vous le disais.
C'est pas grave. Est-ce que c'est pas le principe même de l'art vivant de pouvoir même se tromper, enfin, est-ce que c'est pas ce qui fait aussi un peu le charme parfois?
Oui, parce que c'est vrai que avec le disque on a l'habitude d'une perfection, mais la musique, ce n'est pas cela.
C'est
un art qui est très perfectible, et donc on peut se tromper, on peut faire un couac.
C'est bizarre, des fois. Il y a des années, j'avais enregistré des concerts en direct sur France Musique avec un Bach. En plus, Bach, c'était les Brandebourgeois. Alors là, le canard, quand il est fait, il s'entend vraiment. Et là, le grand
c'est gênant.
En direct sur France Musique, j'ai la cassette, ça m'avait étonné, mais ça arrive aussi.
C'est pas souhaitable, semble, mais disons que si ça arrive, moi je trouve que c'est pas grave. C'est vrai que le disque a changé notre vision du concert, mm-hmm. parce qu'on est habitué à une perfection sonore vraiment inouïe, quoi.
Même si elle est plate.
Oui, oui, mais c'est vrai qu'on a ça dans les oreilles. Alors, on écoute le disque, on va au concert et on veut entendre la même chose.
On veut vérifier la même chose.
Voilà, et en fait, non, c'est plus subtil que ça.
Un peu comme les tableaux, on va voir confirmer avec le portable à Joconde pour voir si elle ressemble bien à l'image qu'on a vue sur Internet.
Oui, c'est un peu ça. Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle moi, je privilégie beaucoup, dans mon immense, ma très vaste discothèque, je privilégie beaucoup les live recordings et parfois, je me rends compte comme à l'instant qu'ils trichent. J'ai une pochette sous la main, nous allons écouter dans quelques instants, c'est tout ça pour introduire la prochaine écoute. On va entendre le troisième mouvement, l'Allegretto Grazioso, le Molto Vivace de la symphonie numéro 8 de Antonín Dvořák, qui sera joué ce dimanche 6 novembre. Eh bien, j'ai un CD sous les mains, il est bien écrit live recording du Berliner Philharmoniker dirigé par Claudio Abbado. Oui, et en plus, que c'est amusant, ça a été enregistré un 16 novembre. Non, pas le 6, hein, un 16 novembre 93, hein, c'est un peu ancien, oui, mais du 16 au 19 novembre. Mais même les CD trichent pour les lives parce que parfois ils font une série de quoi, de 4-5 concerts.
Entre les concerts.
Et voilà, et en fonction
c'est rarement une seule prise. Hein.
Ouais, c'est les tricheurs.
Non, mais c'est pas.
Oui, mais au moins, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est peut-être préférable à la musique en boîte ou comme les photos retouchées, les Photoshop. Gérald, on fait ça? On écoute un extrait de cette symphonie.
Le temps passe vite.
Il reste encore 10 minutes. On écoute quelques minutes, même quelques peut-être secondes de ce troisième.
Vous allez reconnaître le thème parce que
vous le garantissez. C'est un tube. C'est le plus beau. Bon, alors on écoute ce tube.
C'est pas le plus beau, mais c'est le plus connu.
On écoute ce tube et puis ensuite on continue. Oh mon Dieu, Pascal est bien là. Faudra pas déraper après 15 heures. Il faudra bien laisser le blues des canuts commencer à l'heure cette fois-ci.
Tu peux laisser un fond musical, tiens, ça serait pas mal.
Je mettrais du Berlioz. Parce
bah
que
vas-y, lance un truc si tu veux. Excusez-nous, je vais faire quelques annonces d'anciens invités qui exposent, qui ont des projets, etc. Donc j'en ai 5-6 à faire.
Là, pour clore, donc, nous étions un peu en avance, nous sommes en avance sur le dimanche 6 novembre, ce sera la fin du concert, je crois, après l'entracte. Il y aura un entracte, je suppose, Antoine.
On jouera la symphonie après l'entracte, absolument.
Donc la symphonie numéro 8 de Antonín Dvořák. Quelques annonces.
Alors on clôturera, on reparlera de notre chef d'orchestre invité en fin d'émission.
AntoineGlatard.com.
Quelques minutes, simplement pour vous dire d'aller voir l'exposition Louis Chabot au Polaris de Corba, qui expose du 13 octobre au 8 novembre, de 9h à 19h, et le samedi de 10h à 12h, du mardi au vendredi. Donc Louis Chabot, c'est un artiste singulier, hors norme, qui a beaucoup de choses à dire, qui a déjà une grande carrière derrière lui. Il a publié avec un spécialiste de l'art singulier, Laurent Danchin. C'est une belle expo, réjouissante, le lieu est très beau, il faut aller voir cette expo. On peut y aller en métro et en bus, si on n'est pas véhiculé. Je vous invite à aller voir l'exposition Louis Chabot et d'aller souvent au Polaris de Corba, puisqu'il y a aussi beaucoup de spectacles, de théâtre, de danse, de plein de choses à voir. Renseignez-vous. Ensuite, il y a bientôt un hommage à Pierre Combet Descombes, un grand artiste lyonnais mort il y a quelques années. Il fait partie des grands artistes lyonnais, un peu comme Truffémus, même si ça n'a rien à voir. Donc il y a le Grand Salon de Lyon Sud-Est qui commence sa 89e édition au Palais de Bondy. Ce sera du 4 au 20 novembre. Bon, toujours, hein, les artistes du salon du Sud-Est, avec de la peinture, de la sculpture, de la photo, des dessins, de la gravure, peut-être une cinquantaine, soixantaine. Le palais de Bondy a été restauré, on a une belle lumière zénitale, tous les murs ont été repeints en blanc, il y a des cimaises, il a été arrêté en travaux pendant un an, et là, ça rouvre, hein, de nouveau. Ensuite, des expositions personnelles d'anciens invités de spectaculaires, qu'il ne faudrait pas oublier. Monsieur Jean Imhoff va exposer lui aussi à son tour au salon de l'Ouest lyonnais, qui sera donc le samedi 15 octobre à partir de 18h, un vernissage à l'Atrium, à Tinsalin-de-Milune, à l'Atrium, 35 avenue du 8 mai 45. Donc vernissage de Jean Imhoff, venu nous parler de sa belle peinture, hein, il y a quelques temps. Nous avons aussi Hélène Piris, jeune chanteuse jazz qui a fait l'école de jazz de Villeurbanne, qui lance une souscription pour financer un disque et qui a une grande actualité. Allez voir, elle va jouer à Rouen, à Villeray, à Tarare, etc., dans différents lieux. Sabre, Nancy, Thionville, Metz, Nancy, allez sur le site d'Hélène Piris et vous pouvez collaborer au financement, je crois, d'un album qu'elle prépare. Voilà. Et nous aurons peut-être, bon, ça va être les vacances bientôt, donc relâche, mais peut-être le 2 novembre, j'attends une réponse, peut-être que nous aurons la nouvelle visite de Geneviève Garcia-Gallo qui va exposer dans la galerie Jean-Louis Mandon et peut-être que le galeriste viendra avec la peintre. Geneviève Garcia-Gallo qui était déjà venue avec Manu Madrose, qui présente une nouvelle exposition qui se tiendra donc le vernissage mercredi 2 novembre. Donc rue Vaubecourt, galerie Jean-Louis Mandon, Geneviève Garcia-Gallo en déshérence, peinture récente du mercredi 2 au samedi 26 novembre, donc tout le mois de novembre, vernissage le soir. C'est peut-être qu'on fera l'émission du mercredi 2 ensemble, j'attends confirmation.
C'est quand même mieux, Gérald, hein, d'évoquer cette actualité de nos invités, parce qu'il faut faire à nouveau la mention, même si on en parle, mais s'il faut seulement évoquer la chose très légèrement. C'est quand même mieux d'évoquer des invités qui font encore des choses, puisque, bien entendu, moi je songe à Francis de Coninck, émission numéro 13, hein, je crois, ou même pas peut-être, c'était non, en octobre,
numéro
émission
9.
Numéro 9, en octobre 2013, voilà, c'est peut-être pour ça que je confonds. Francis de Coninck décédé il y a 10 jours, c'est ça? Tu as assisté donc à une cérémonie en fin d'après-midi.
Oui.
Bon. Donc voilà, Francis, nous avons encore une pensée. Est-ce que il nous reste encore 5 petites minutes? J'aimerais faire entendre un truc qui est bien là du Berlioz. Vous parliez Antoine Glattard d'un programme purement français pour le programme pour le concert pour les. Je sais pas comment nommer ça, les spectacles de fin d'année nommés Rêve de Cirque.
Concert du Nouvel An.
Concert du Nouvel An nommé Rêve de Cirque. Écoutez un peu ce tout début de cette marche hongroise extraite de la Damnation de Faust. Peut-être que ça peut introduire ton compte rendu de l'ange
très
de
rapide.
Prokofiev. Tu vas voir. Attention, là, ça va nettoyer les oreilles.
Vas-y.
Bon, alors après, ça redescend un peu, mais ensuite, ça va bien taper. Donc là, nous écoutons du Berlioz. Ce sera donné les 29, 30, 31 décembre, horaire 20h ou bien 15h aussi le 31 décembre. C'est un vendredi, je crois, le 31, ou je sais plus. Bon, bref, je reparcourrai cela. Et toi, Gérald, tu...
Alors moi, j'ai eu la chance d'aller à l'Opéra samedi dernier voir L'Ange de Feu de
Prokofiev. C'est pas du Berlioz, mais je laisse Berlioz quand même.
Et ça déménage, et j'invite les auditeurs... de spectaculaire à s'y rendre, puisque c'est un opéra, il faut aimer l'opéra, il faut être bien accroché, puisque c'est très fort, c'est puissant, c'est troublant, ça peut même provoquer une certaine angoisse, il faut être vraiment en forme. C'est une partition exceptionnelle.
Tu as failli faire un malaise, tu nous as dit
au troisième acte. J'étais un peu mal, parce que le thème, c'est une histoire de possession, d'exorcisme. Ça m'a fait beaucoup penser au cinéma, la mise en scène est absolument géniale, le décor, la scénographie est particulièrement travaillée, les interprètes sont magnifiques.
Peu nombreux, hein, je crois, un plateau vocal.
Pas mal, et puis il y a les chœurs toujours magnifiques de l'Opéra de Lyon qui donnent une puissance à cette partition, très russe, hein, on est proche de Shostakovich ou d'autres, très, très percussive et ça déménage, syncopé. Le cinquième acte ressemble au Diable de Ken Russell, cette histoire de possession dans le couvent de Louvain au XVIe siècle, je crois. C'est une histoire d'exorcisme, de possession, de folie.
Et la direction d'orchestre.
Magnifique, l'orchestre toujours aussi génial, les chœurs fabuleux. Le cinquième acte est une poésie et c'est une partition exceptionnelle.
Est-ce que tu as pu sentir la patte de Kazushi Ono qui s'en va?
J'ai pas vu les musiciens, mais c'était vraiment magnifique. Un grand moment, très époustouflant, inoubliable, franchement. Et bon. C'est assez éprouvant, c'est une vraie expérience physique parce que la partition elle est forte, en plus on en prend plein les oreilles, c'est beaucoup de tension, presque du malaise parfois, c'est impressionnant, vraiment impressionnant, et les gens qui boudent l'opéra et qui aiment les sensations fortes, on pense à Marnie, à Psycho, à Hitchcock, hein. Il y a des points communs avec beaucoup de cinéma, on a beaucoup de fillettes de la maîtrise de l'opéra qui évoquent même des séries Z style Mario Bava, vous savez ces petites fillettes dans les films fantastiques de séries Z des Italiens années 60 là. Un peu angoissante, le village des damnés de Carpenter. Enfin, il y a une ambiance malsaine, mais qui est nourrissante.
Allez Gérald, il nous reste quoi, une minute à peine. Deux toutes petites questions à Antoine. Est-ce que l'opéra de manière générale ça vous dit? Est-ce que l'opéra de Lyon ça vous dirait? Alors bien entendu un chef a été nommé, Daniele Rustioni, oui. qui prend son poste en 2017, en octobre.
Qui est jeune d'ailleurs, qui a...
Mais ça vous dirait
plus que mon âge.
L'opéra en général, l'opéra vous avez déjà
dit. Ah moi c'est ce que
oui,
je veux faire.
Don Giovanni.
Mais oui.
Vous allez le faire.
Je vais faire Don Giovanni à Liège, à l'opéra Liège bientôt, et je travaille à l'opéra de Rouen. Et je suis tellement heureux de refaire de l'opéra, car vraiment pour être sincère, c'est là où je me sens le mieux. J'aime l'opéra profondément. J'aime travailler avec les chanteurs. J'aime diriger les voix. Donc c'est vrai que j'ai très envie de faire de l'opéra. Mais ça peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois. Mais
c'est Manon de Master.
Oui oui. Manon est un opéra. Moi j'ai dirigé Bohème il y a un an. C'était un grand moment, oui, bon, je suis un grand fan d'opéra, absolument.
La damnation de Faust, regarde, écoutez comme ça tape, et puis je pense qu'on va mettre le générique de fin d'émission, mon Dieu, 30 secondes. As-tu encore des petites questions? Isa, as-tu des chroniques, des choses annoncées, non? Bam, ça cogne. Isa, non,
au cinéma
particulier.
Rien de spécial, non.
Il faut aller voir quoi au cinéma? Le dernier Tim Burton Il est sorti le dernier Tim Burton?
Bien sûr, Miss Peregrine, ouais. Si.
Alors, il paraît que c'est bien pour les amateurs. Pour les amateurs de Tim Burton, il renoue avec l'univers. Bon, c'est...
Je suis pas très fan.
Il refait un peu le même film souvent.
Ouais, souvent, c'est souvent un peu pareil. Ça... Ouais. Moi, ça me parle pas trop.
C'est plus ce que c'était. Bon.
Générique de fin d'émission. Bon, ben, mon Dieu, on est en train de passer 15h.
Merci à vous.
Pascal,
revenez quand vous voulez.
À toi la place, Pascal. Blues des Canuts qui va commencer.
Merci pour l'invitation.
Antoine Glatter, nous vous remercions pour ces deux concerts dimanche 6 novembre et puis le. Ce sera les 29, 30 et 31 décembre à l'Orchestre de Lyon. Et ensuite, ben, on vous dira adieu puisque vous ne serez plus dans les parages, vous ne serez plus à Lyon.
Peut-être.
Mais vous reviendrez.
Toutes les infos sur le blog, spectaculaire.
Tout sera sur le blog, y compris le lien Twitter d'Antoine. Parce qu'il faut Facebook, Twitter, enfin disons il faut. Peut-être pas, mais certaines personnes apprécient. Relâche pour les émissions à venir, mais on se retrouve en novembre 1er.
Peut-être le 2.
Restez à l'écoute de Spectaculaire, notamment Blues. Restez à l'écoute de Radio Canu, notamment Blues des Canus à venir tout de suite avec Pascal. Et puis c'est tout.
Oui, son bâtard.
Son bâtard, méga combi, on n'arrête pas le prog. Isa, Gérald, Antoine, salut tout le monde.
Allez,
salut tout le monde.
Au revoir.
Au revoir les gars. Bye.
Merci.